Madame la ministre, au nom de la Fédération française EDIS, je vous remercie de votre présence deux fois cette année. C'est un fort signe de reconnaissance et de la prise en compte de l'ensemble des personnes DIS dans la politique publique que vous menez. Nous connaissons les contraintes financières qui pèsent depuis des années sur les dépenses publiques. Pour autant, vous avez engagé des réformes et su convaincre pour mettre des moyens financiers supplémentaires. Aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie autisme au sein des troubles neurodémentaux, vous ne nous avez pas oubliés sur trois sujets. La recherche, la formation et le forfait précoce, les premiers bilans proposés et diagnostics. Cependant, nous avons deux points que nous vous soulignons pour ne pas totalement nous oublier. On va dire que c'est une obsession. C'est l'âge. La loi est parfaitement bien écrite, mais le décret donne un âge butoir, c'est-à-dire 6 ans révolus. En clair, la plupart des enfants 10 ne seront pas dans le forfait précoce. Le rapport de Sébastien Jumel, le député, propose 12 ans comme âge. Certains pédiatres diront pourquoi pas aller jusqu'à 15 ans, mais 12 ans déjà. Là rentreront tous les dyslexiques qui ne peuvent pas être diagnostiqués avant 6 ans. Nous ne doutons pas de votre détermination pour arriver à faire passer cet âge dans les budgets de la dépense publique. Aujourd'hui, peut-être, projet de loi de finances, ou demain. Je voudrais quand même souligner qu'il ne faut jamais oublier qu'après 12 ans, ben 12 ans c'est le collège, hein, mais les adultes, pas tous les jours, mais régulièrement, nous recevons des messages, des coups de téléphone. Les adultes, ils cherchent des endroits, alors ils se renseignent, ils prennent la liste des centres de référence, et ils me disent, Madame Gros, ça s'arrête à 12 ans, 10 ans, 15 ans, mais après, il n'existe rien. Tous les jeunes qui sont passés à travers la maille du filet, bah eux, ils n'ont rien. Parce que même si le reste à charge est là, à prendre en charge, pour certains bilans, comme l'ergothérapeute, le psychomotricien, les adultes, ils ne trouvent pas les professionnels sur le terrain. Et ils en ont besoin, vous savez pourquoi ? Pour rester dans l'emploi, pour justifier que leur trouble, notamment, alors je reparle de la dysorthographie, mais pas que, la dyspraxie, c'est ils ont besoin d'aide pour aménager des postes de travail. Et pour le justifier, je vous le redis, je l'ai dit en introduction, en France, il faut prouver qu'on a droit. Pour avoir des droits, il faut un bilan. Et pour avoir un bilan, il faut trouver des professionnels pour réaliser des bilans et un diagnostic. Le deuxième point qui nous chagrine, c'est les aménagements aux examens. Ça fait des années qu'on dit qu'il y a quelque chose de lourd, que plein de familles qui remplissent les dossiers font qu'ils ne les remplissent plus ou qu'ils les répondent ou ils ne les remplissent pas. Mais en tout état de cause, leur demande est partiellement acceptée. Nous ne sommes pas d'accord sur les chiffres de la Direction générale de l'éducation nationale qui dit que 95% des aménagements sont accordés. Bien sûr, tous sont un tiers-temps, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne se réduit pas au tiers-temps. Je sais que vous avez été alerté sur ce point, mais je tiens à souligner, à vous redire notre inquiétude, puisqu'on est en pleine réforme du bac, et que les aménagements aux examens, c'est maintenant. Le contrôle continu, c'est maintenant. Que le grand oral pour les dysphasiques, c'est bientôt. Eux auront des difficultés. Mais pas que les dysphasiques, tous ceux qui ont un trouble du langage oral. Est-ce que ça va être bien pris en charge ou retenu comme... Est-ce que les jurys vont bien être sensibilisés ? Madame la ministre, nous partageons des combats communs, j'en suis convaincue. L'écoute de l'expression des souhaits des personnes et de leurs familles. Je sais pouvoir compter sur votre engagement aux côtés des familles et des personnes porteurs des troubles 10. Encore, je voudrais conclure pour vous remercier de votre présence aujourd'hui, qui est une salle, je dirais majoritairement, de familles, mais aussi d'un bon nombre de professionnels qui sont là pour vous écouter. Je vous laisse.
Madame la Présidente, chère Nathalie Gros, mesdames et messieurs, il est important pour moi d'être là aujourd'hui. Alors c'est une journée chargée, j'arrive en direct de la mise, du lancement du groupement d'intérêt scientifique, du GIS, de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. C'était une journée où nous parlons beaucoup aujourd'hui de ces troubles du neurodéveloppement. Je pense qu'il était important de pouvoir avancer très vite sur cette recherche, pour qu'enfin la France puisse avoir un écho dans le panorama européen, parce que je pense que nous avons là aussi un très beau levier. Donc, chère Nathalie Gros, moi, il est important pour moi d'être présente aujourd'hui. Je pense que c'est la continuité. Ce matin, la recherche, aujourd'hui, auprès de vous, je sais que vous parlez d'éducation, donc c'était très intéressant pour moi de venir parler avec vous. J'aurai un petit temps d'échange, si vous le souhaitez, un quart d'heure à peu près. Voilà, vous redire que... En effet, et ce n'est pas que Sophie Cluzel, c'est l'ensemble du gouvernement qui est mobilisé pour la prise en compte des enfants à besoins éducatifs particuliers, et notamment les 10. Je sais que vous allez rencontrer jeudi le directeur de la DGESCO, je le vois aussi lundi. Vous avez fait une de vos deux obsessions, comme vous dites, les centres d'examen et l'intervention précoce. Sachez que sur les examens, oui, le dialogue est renoué avec la Direction générale des affaires scolaires. Je pense qu'il y avait des freins juridiques. Je pense qu'il faut que nous allions ensemble convaincre encore que l'égalité n'est pas l'équité. Et que oui, certains enfants ont besoin d'aménagement. Et que oui, nous devons être beaucoup plus simples, clairs et lisibles sur les ambitions qu'on a pour porter ces enfants à la réussite dans leurs examens. C'est bien ça l'important. C'est vraiment pouvoir avoir des parcours scolaires de qualité, pouvoir reconnaître les besoins de chacun et pouvoir adapter enfin au niveau pédagogique et au niveau examen la réussite de tous. Je pense que vous avez un fil conducteur qui vous anime. C'est comment former l'essentiel des professionnels. Et vous l'avez dit, les adultes aujourd'hui ne trouvent pas forcément des professionnels formés, donc l'effort que nous faisons sur la formation des professionnels va servir à tous, les enfants, mais y compris les adultes. On a une barre assez haute à franchir, c'est indéniable, et je sais que les professionnels sont présents dans la salle, de visibilité aussi, de où sont les professionnels formés. Je pense que là aussi, nous devons pouvoir travailler sur cette formation, cette reconnaissance. Et je tiens à souligner la qualité de vos travaux. Nathalie Gros l'a fait passer tout à l'heure, je pense que vous balayez l'ensemble des besoins. Il faut en effet mettre votre expertise officiellement en termes de formation auprès de tout l'écosystème, tout l'environnement, et pas seulement l'environnement scolaire. Mais l'environnement des entreprises, et je sais que vous avez avec la BPI, alors c'était peut-être ce matin avant que j'arrive, ou après, je ne sais plus, une action sur l'insertion professionnelle. En fait, c'est tout au long de la vie qu'il nous faut ensemble travailler sur l'environnement. On a longtemps travaillé sur la personne. Cette loi de 2005, nous nous sommes focalisés sur les besoins de la personne. Force est de constater que l'environnement n'a pas assez travaillé. D'où nos problématiques d'adaptation pédagogique, d'où nos problématiques d'adaptation des postes de travail et du collectif de travail. Donc notre enjeu commun, il va être là. Comment nous nous mettons en ordre de marche pour former l'environnement, pour qu'enfin les personnes comprennent ce que sont les troubles 10 et qu'enfin les adaptations soient mises en place. Cette jeune fille, Constance, tout à l'heure, elle nous interpelle très bien. Nous parlons toujours des faiblesses, mais parlons donc des forces des personnes, des façons autrement d'apprendre, autrement de travailler. C'est comme ça qu'on pourra se réunir tous ensemble. Donc pour moi, il est important de vous réaffirmer notre volonté de changer la donne, de changer d'échelle sur ces pratiques d'adaptation, ça va être très important. Nous avons aussi un outil au niveau de la scolarité, si je reviens à l'éducation et à la scolarisation. C'est CAP vers l'école inclusive, cette plateforme. Il faut que nous l'enrichissions vraiment de façon commune, conjointe, en s'appuyant sur l'expertise des associations et des parents. C'est un premier outil. Je pense qu'il va falloir que les enseignants et les accompagnants, parce que je vous rappelle qu'il est ouvert bien sûr aux AESH, il suffit d'avoir donc son adresse académique, pour pouvoir travailler sur les outils pédagogiques d'adaptation. On a un levier très important qui normalement devrait pouvoir rentrer dans chaque école, chaque collège, chaque lycée, chaque classe, puisqu'il en va de la responsabilité des adultes d'aller se former et s'informer en permanence, et c'est bien l'enjeu et l'ambition de cette plateforme numérique Cap vers l'école inclusive. Alors bien sûr, ça ne suffit pas, un outil. Après, il faut travailler dans la pratique. C'est bien tout l'enjeu de la coopération médico-sociale et éducation nationale. Je tiens quand même à souligner la qualité de cette rentrée scolaire cette année. J'ai pu le vérifier sur le terrain. Il y a un vrai changement de culture au sein de l'éducation nationale pour faire toute sa place à la mise en place des adaptations, à regarder l'enfant avec des besoins éducatifs particuliers, quels qu'ils soient. Alors vous me direz, oui, ça change pas assez vite, indéniablement. Le temps des familles, ce n'est pas le temps des administrations, ce n'est pas le temps des politiques. Mais je pense que nous avons vraiment enclenché une démarche de coopération hors vraiment d'envergure et qui n'était pas du tout auparavant. Rappelez-vous, 2009, le décret de coopération. On est en 2019. Cette rentrée scolaire, vraiment, est sous les feux de la coopération. J'ai pu le vérifier. Déjà 60 équipes mobiles qui sont médico-sociales, qui vont se mettre en appui des écoles, collèges et lycées. Alors vous me direz 60, c'est pas grand-chose. Mais 60, il fallait les faire. C'est une grande nouveauté. C'est-à-dire que des opérateurs du médico-social se sont portés volontaires pour pouvoir aller en binôme, éducateurs spécialisés, psychologues, psychomotriciens, dans les écoles, collèges et lycées, pour apporter justement leur regard différent sur des enfants qui présentent des troubles, qui nous disent quelque chose et pour autant qui n'ont pas encore leur parcours de diagnostic. C'est un premier pas. C'est une reconnaissance de, avec des cultures différentes, on peut travailler ensemble dans un lieu unique qui s'appelle l'école. Quand j'étais à La Réunion avec Jean-Michel Blanquer pour la rentrée scolaire, nous avons visité une école avec une classe Ulysse dédiée aux 10, qui est vraiment incroyable. Tout se passe au sein de l'école, avec éducateurs spé, orthophonie, psychomotriciens, une coopération vraiment qui est complètement actée sur les troubles des apprentissages et les troubles 10. Et tous les enseignants nous ont dit, c'est ça qu'il faut faire quand un enfant a vraiment besoin d'avoir sa rééducation de façon musclée au sein de l'école. C'est comme ça qu'on travaille sur l'environnement, qu'on met en place cette culture pédagogique de l'adaptation, cette culture de l'adaptation pour tous, cette pédagogie différenciée dont les enfants 10 ont besoin. Donc ça, je tenais vraiment à vous le souligner. Au-delà de ça, il y a des PIAL renforcés qui se mettent en place. Moi, je crois énormément à vous en tant que personne ressource, et c'est pour ça que ça m'intéresse énormément, votre projet de formation. Il va falloir qu'on le travaille. On va le porter auprès de la DGESCO, on va le porter auprès, bien sûr, de l'INSHA, mais qui est au courant, pour pouvoir le développer en tant qu'expert de territoire au service de cette formation. C'est comme ça qu'on arrivera avec cette coopération. Elle est inscrite. Je vous rappelle qu'en juillet, pour la première fois, les recteurs et les directeurs et directrices d'agences régionales de santé ont été réunis ensemble avec Jean-Michel Blanquer et moi-même. C'était la première fois. Et ce n'est pas fini, puisque nous allons faire le comité de pilotage de suivi de l'école inclusive le 4 novembre pour pouvoir suivre, voir comment s'est passée la rentrée scolaire et travailler sur les freins et les leviers. Vous n'êtes pas sans savoir que nous voulons simplifier les démarches pour les familles. Notification sur le cycle scolaire pour les compensations, quand il y a besoin de compensation, qu'elles soient accompagnantes, dispositif Ulysse, unité d'enseignement, cycle scolaire. C'est-à-dire que pour vous, les familles, plus besoin d'aller auprès de la MDPH tous les ans pour pouvoir justifier des besoins de compensation sur cette scolarisation. C'est colossal, c'est du gagnant-gagnant. Ça permet à l'éducation nationale d'anticiper l'organisation au plus près des territoires. C'est du gagnant-gagnant pour les équipes de la MDPH qui ont autre chose à faire que de renouveler tous les ans à l'identique. Donc ça, c'est une première chose. Au niveau de la formation, il nous reste encore des choses à améliorer. C'est indéniable, notamment la formation des accompagnants. Ça aussi, grand projet au niveau des universités, mais aussi au niveau local, avec cette coopération de formation, je l'ai déjà dit. Pour autant, pour tous les enfants qui présentent des troubles 10 qui ne passent pas par la MDPH, il faut que ces adaptations se mettent en place et que les examens puissent en effet être adaptés. Et donc, nous serons très vigilants avec Jean-Michel Blanquer que l'adaptation aux examens suit vraiment ce cursus selon les besoins des personnes. Nous allons y travailler ensemble. simplification, lisibilité et surtout peut-être document unique qui s'impose à toutes les académies. Parce que là aussi, les cases qu'il faut cocher, il faut qu'elles soient identiques pour tout le monde. Il en va de l'équité sur le territoire. Je voudrais aussi vous dire que sur l'organisation du parcours scolaire, pour moi, c'est une priorité absolue de pouvoir avoir de la simplification. Et je vous rappelle le groupe Focus qui est porté par la CNSA pour simplifier la multitude de projets et de parcours spécifiques qu'il y a. Vous n'êtes pas sans connaître. PPRE, PAP, PAI, PPS. Comment une famille s'y retrouve ? Plus personne ne sait quel est le niveau d'adaptation et à quoi je peux prétendre et pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir autant de documents, autant de projets et que cet enfant 10 dans la Loire, il ne va pas être traité de la même façon que cet enfant 10 à Marseille. Non, il faut que nous simplifions. Il faut que nous ayons un espèce de livret de parcours inclusif, un livret de scolarisation de qualité pour les enfants à besoins éducatifs particuliers. Donc nous y travaillons toute cette année avec la CNSA qui porte ce projet pour simplifier. Attention, simplifier, ça ne veut pas dire perdre des droits. Hein, parce que j'entends aussi, non, pour l'instant, c'est vrai que, et vous le vivez tous les jours, quel est le parcours qui va me permettre de rester dans mon administratif au sein de l'école ou je vais devoir passer par la MDPH pour reconnaître mes droits à compensation. C'est toute notre ambiguïté franco-française, toujours, de devoir dire j'ai une étiquette, ça me donne droit à tel droit. Il faut qu'on simplifie cet accès au droit. Il faut que donc on puisse irriguer l'éducation nationale de sa capacité à adapter. Parce qu'une fois qu'on aura les adaptations pédagogiques, beaucoup pourront se passer peut-être d'accompagnants. Je vous le dis franchement. Je pense que là, on a un vrai boulevard de pouvoir travailler tous ensemble, et le ministre de l'Éducation nationale est motivé là-dessus, sur pouvoir irriguer au sein de l'Éducation nationale la culture des adaptations pédagogiques grâce aux experts, grâce à ces regards croisés que l'on met enfin en place avec cette coopération médico-sociale. Et quand je dis médico-sociale, c'est y compris libéraux. C'est les rééducateurs, les spécialistes du handicap. Je ne sais pas comment les appeler, mais j'englobe tout le monde. Voilà, ça, je voulais vous le redire. Sur la deuxième obsession, c'est le forfait d'intervention précoce. Alors là, soyons très clairs. Aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 6 ans et 10 mois pour une première intervention. Donc, un an d'intervention, 7 ans et 10 mois. Alors, j'entends, 12 ans, 15 ans, 16 ans. Sincèrement, si c'était possible, on l'ouvrirait largement. Faites-moi confiance, faites-nous confiance que rien n'est figé, qu'on démarre et qu'il fallait démarrer et que cette culture d'adaptation, ce médico-social qui va rentrer dans l'école nous permettra de pouvoir observer, identifier les besoins beaucoup plus tôt. D'autre part, nous nous appuyons sur les réseaux d'excellence. Je rappelle tout le travail qu'on a fait sur Marseille, sur les réseaux de Marseille, sur les réseaux 10. Ils ont toute leur place aussi, ceux-là. Donc faisons-nous confiance mutuellement. Rien, les portes ne sont jamais fermées, mais laissons les interventions précoces se mettre en place avant qu'un diagnostic soit posé. Donc avant que le diagnostic soit posé, on peut repérer. Et on va repérer tous ensemble beaucoup plus vite, puisqu'on a une dynamique d'observation qui se met en place et une dynamique de coopération. Voilà, donc je tenais à vous dire, la porte n'est pas fermée, j'entends, j'ai très bien entendu, votre présidente, vous inquiétez pas, porte ces messages très haut et très fort. Donc j'entends, je sais que vous voyez jeudi la DGESCO, lundi je le vois aussi, le nouveau responsable de la DGESCO. Donc examen, on y veille, intervention précoce, on observe et rien n'est fermé. Voilà. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Aujourd'hui, on travaille ensemble, on avance, on verra ce que ça donne, on observe, mais surtout on évalue notre politique. Et donc, s'il y a besoin de rectifier plus tard, d'élargir, on verra. Voilà, c'est dit, c'est posé. En tout cas, sachez que la délégation interministérielle, puisque José Pouygues est là, qui la représente aujourd'hui, parce que Claire Compagnon partait en Guadeloupe, donc puisque José Pouygues, que tout le monde connaît, donc, a intégré la délégation interministérielle, donc vous avez quelqu'un qui connaît les apprentissages, qui connaît la différenciation indispensable. Donc, je pense qu'au sein de la délégation interministérielle, nous avons une équipe extrêmement vigilante à prendre en compte tous les besoins éducatifs particuliers de vos enfants. Voilà, je vous remercie. Comptez en tout cas sur ma détermination.